religion du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à tous. Le Vatican a annoncé ce vendredi 10 juin que la visite du pape François, prévue début juillet en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, était reportée sine die pour des raisons médicales. Le pape François, âgé de 85 ans, souffre surtout du genou, mais aussi de douleurs à la hanche. Et il avait aussi subi l'an dernier une opération délicate du côlon. Ce voyage aurait été le premier qu'il aurait dû effectuer dans sa quasi-totalité en fauteuil roulant. Le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero, en RDC, a annoncé ce vendredi le report de cette visite du pape François.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre le résultat de thérapie du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, et a décidé de reporter, était contraint de reporter son voyage en air du Congo et au Sud-Soudan, en date ultérieure qui reste encore à définir.
Une visite épiscopale qui devait s'inscrire sous le signe de la paix et de la réconciliation dans des pays en proie aux conflits armés. En RDC en particulier, l'espoir et les attentes suscitées par cette visite pontificale, la première depuis 37 ans après cette dernière de Jean-Paul II en 1985, étaient immenses. Notre envoyé spécial à Kinshasa, Claire Fage, a pu recueillir ces témoignages.
Les pancartes géantes annonçant la venue du pape François sont encore visibles dans tout Kinshasa. Mais à l'église Sainte-Anne, le curé annonce la nouvelle venue de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO.
La CENCO nous informe que le pape ne viendra pas au mois de juillet. La visite est reportée à une date ultérieure.
La déception du clergé et des fidèles est d'autant plus grande qu'ils s'étaient activement préparés, comme l'explique le vicaire de Notre-Dame de Fatima et l'une des fidèles.
Il y avait déjà une prière qui venait déjà de la CENCO, qui nous mettait déjà dans un esprit d'accueil du pape. Ça pouvait nous aider, nous Congolais, à être réconciliés. On l'a récité déjà dans les paroisses.
Nos fidèles, on s'est préparés, surtout le jeune et tout, qui s'est mobilisé déjà. Venir en aide, par exemple, aux personnes vivant avec handicap qui aimeraient bien également visiter le pape, le voir, bien entendu.
Parmi les bénévoles, l'infirmier-chef Jean-Claude Kabidi est sous le choc.
À l'hôpital Saint-Joseph, on s'est préparé comme équipe médicale, le suivre de l'aéroport, ainsi de suite, durant toutes ces cérémonies. Ça nous fait mal au cœur, voilà. Mais nous devons prier pour lui et que prochainement, il trouve un peu de force pour venir nous visiter.
Les fidèles croient encore en la venue du pape, tout comme le gouvernement qui déclare qu'il l'attend fermement en République démocratique du Congo. Claire Fage, Kinshasa, RFI.
Et le clergé congolais a encaissé le choc de la nouvelle, comme l'a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo Besungo à Kato TV ce vendredi.
Quand la nouvelle tombe comme ça, la première réaction, c'est comme un choc. Mais j'ai pensé surtout à mon peuple, un peuple qui souffre, un peuple qui a besoin d'une raison d'espérer, et la visite du pape était considérée comme une sorte de kairos qui venait réconforter ce peuple qui souffre, et paf, la nouvelle tombe. Vous imaginez tout ce que ça peut signifier comme désolation de la part du peuple. Ce qui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains, nous pouvons avoir des misères de santé quand ça arrive. Nous accueillons ça dans la foi. Ce qui est arrivé pour le pape, c'est la même chose. Et je demande seulement à mon peuple de continuer à prier pour le pape, à prier pour sa santé, afin qu'il puisse vite récupérer et reprendre son agenda.
Bonjour Pierre Diarra.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse, auteur de « Gratuité fraternelle au cœur du dialogue » aux éditions Cartala. Et dans votre collection « Chrétiens en liberté, questions disputées » vient de paraître « Les églises d'Afrique, entre fidélité et invention », un ouvrage dirigé par Dieudonné Mushipu Mombo et Ignace Ndongala Maduku. Vous étiez au Vatican, il y a quelques jours, pour l'Assemblée générale du Conseil pontifical et le dialogue interreligieux, un conseil d'ailleurs qui est devenu un dicaster, l'équivalent d'un ministère, et vous avez pu rencontrer le pape. Comment vous est-il apparu physiquement ?
Physiquement, il était sur un fauteuil roulant, mais il nous a adressé la parole et la manière dont il nous a regardé laissait penser qu'il était en forme. Même si, bien sûr, il a des difficultés pour se déplacer.
Son état de santé suscite des inquiétudes au sein du Vatican, c'est ce qu'il se disait dans les couloirs?
Oui, on sentait que certaines personnes étaient préoccupées par sa santé. Et personnellement, je me disais, est-ce qu'il va pouvoir aller au Congo? Et je m'interrogeais, mais je n'ai pas eu de réponse avant de quitter Rome jeudi dernier.
Alors, quand on entend la réaction du cardinal Ambongo, qui parle d'un choc, hein, même s'il comprend évidemment cette décision.
Ah oui, je pense que c'est une déception, même si, bien sûr, pour les questions de santé, et les Africains comprennent très bien que si le pape a des problèmes de santé, il vaut mieux qu'il reporte son voyage, même s'il y a quand même une déception et je pense une attente encore. Les Africains vont prier pour lui en espérant que sa santé soit vite rétablie et qu'il puisse réellement venir donc au Congo et au sud de France et au sud de Soudan pour pouvoir donc rendre cette visite apostolique à l'Afrique, en particulier au Congo.
Oui, parce que Pierre Diarra, les attentes étaient très, très importantes.
Oui, je pense à plusieurs niveaux. Sans doute que les évêques et puis le peuple de Dieu qui se trouve au Congo, au sud du Soudan et même partout en Afrique, il y a une attente forte. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels, bien sûr, on attend que le pape propose des réflexions et des orientations pour les églises qui sont en Afrique. Je pense notamment à la question de l'inculturation. Donc, comment est-ce qu'on peut accueillir l'évangile dans les communautés chrétiennes, dans les mondes africains, dans les cultures africaines? Comment est-ce que l'évangile Jésus-Christ accueilli en Afrique peut transformer nos sociétés africaines? Donc, cette grande question, on pourrait appeler ça du point de vue des spécialistes de la théologie contextuelle, comment est-ce que l'Église accueille l'Évangile et met cela en pratique et donne de l'espoir et de l'espérance au peuple qui est en Afrique? Ensuite, il y a toute la question de l'écologie, où on sait que le pape est très sensible après avoir donc proposé des réflexions avec Laudato Si. Il y a aussi, je pense, toutes les questions liées à la responsabilité des chrétiens, pas simplement dans le domaine politique, mais aussi dans les domaines socio-économiques et dans la gestion de l'Église en Afrique. Et puis, il y a toutes les questions du ministère. Comment est-ce que les hommes comme les femmes s'engagent pour l'avenir de l'Église en Afrique et comment est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités à tous les différents, dans tous les différents aspects de la vie de l'être humain en Afrique? Donc, au niveau des relations hommes-femmes, au niveau des relations, au niveau des ethnies, comment on constitue les communautés chrétiennes, comment est-ce qu'on gère une communauté chrétienne et comment est-ce qu'on peut créer un peu plus de dynamisme et de responsabilité dans la vie des chrétiens et des communautés chrétiennes.
Pierre Diarra, vous évoquiez l'écologie comme l'un des domaines très chers au pape François, sur lequel il était attendu, en particulier en RDC, un pays très riche en ressources naturelles. J'ai pu joindre Mgr Muyengo, l'évêque d'Uvira, dans l'est du pays, une région en proie à des violences extrêmes à cause de la convoitise que suscitent ces ressources naturelles.
Nous étions encouragés de voir dans son programme cette idée de rencontrer les victimes de toutes sortes de violences et de guerres que nous connaissons ici, mais aussi des exclusions des uns et des autres. On attendait vraiment le pape comme un messager de paix pour nous réconcilier chacun avec Dieu d'abord, avec Dieu les uns avec les autres, parce qu'on s'est fait beaucoup de mal dans cette région. On n'a jamais connu la paix. C'est la violence, les guerres au quotidien. Nous espérions que la dernière rencontre de tous ces groupes à Nairobi allait arranger les choses. Et vous en avez appris par rapport au M23.
Donc ce groupe qui sévit dans l'Est.
Moi, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on s'y prend bien. On en a fait une guerre de conflits communautaires, comme j'ai entendu. Non, ce sont des conflits des politiciens. Conflit de puissants par rapport à nos ressources. Il y a ça, par un conflit des terres. Donc tout ce qu'on nous donne là comme raison que les populations ne s'attendent pas, non. ces conflits, ces guerres sont animées. On connaît ce qui est animé. Et si on veut résoudre ces problèmes, il faut passer par là. C'est-à-dire interpeller tous ceux qui sont derrière ces guerres, et on les connaît, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, on les connaît. Mais les enjeux du Congo sont tellement énormes que personne ne veut dire la vérité.
Quel est le poids de l'Église, justement, pour essayer de réconcilier, puisque le travail de maillage des territoires avec des prêtres de terrain est connu, mais ils sont souvent attaqués, eux aussi. Les paroisses aussi peuvent être attaquées. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire ce travail sur le terrain.
Moi, sans me vanter, je vous dis, 8 ans je suis ici, j'ai essayé de faire quelque chose. C'est comme ça que je suis en train de dire, le problème, ce n'est pas avec les gens de base. On fatigue la population avec des dialogues qui n'aboutissent pas. Il faut voir ces problèmes au sommet des États. Et au niveau de ces sommets-là, on connaît les individus qui animent le conflit là-bas. Et beaucoup sont dans le gouvernement, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi. Beaucoup sont là, on les connaît. Si on avait la bonne volonté, la bonne foi de résoudre ces problèmes-là, on le ferait. Mais on sait que les intérêts sont tellement énormes qu'on n'y parvient pas. Combien de fois on nous a pas fait prier les fidèles, prier, dialoguer. Mais le soir, il y a des tireurs de ficelles qui interpellent. Il fallait faire ceci. Et rien n'aboutit.
Donc le message du pape, là, aurait été aussi de tenter une réconciliation.
Moi, je crois que le pape est une personne très symbolique. Sa parole, je pense, aurait pu avoir un effet sur la situation.
Vous craignez que, les violences reprennent de plus belle du fait qu'ils ne viennent pas ? Il y a une inquiétude ?
Oui. Mais les violences, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, mais on espérait que par sa présence, peut-être les choses pourraient s'apaiser. Peut-être il pouvait nous donner aussi des pistes, des solutions pour qu'on se remette autour d'une même table. Et c'est comme ça que nous continuons à espérer, à prier pour qu'il sorte de cette difficulté physique, qu'il vienne au Congo. Nous ne désespérons pas.
Quand on écoute ce que nous dit l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Muyengo, quelle est votre réaction, Pierre Diarra?
Je pense que ça renvoie au logo où il y a bien sûr toutes les populations. Il y a le fleuve, et ce qui est étonnant, c'est le fleuve de sang dans l'est du Congo, où il y a des richesses au niveau des minéraux de la terre. On peut dire qu'il y a une richesse dans ce pays. Bien sûr, la richesse aussi peut être observée au niveau de tout le dynamisme qu'on peut trouver au Congo, à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau économique. Mais ce qui est étonnant et grave, c'est que ces richesses suscitent beaucoup d'intérêt et beaucoup de violence dans l'est du Congo. Et c'est insupportable d'une certaine manière. Et ce que l'évêque essaie de dire, si j'ai bien écouté et compris, c'est que la difficulté ne vient pas seulement des Congolais. Il y a aussi des puissances économiques mondiales qui s'y retrouvent, qui ont aussi leurs intérêts et qui fait que finalement, ça devient non pas un problème seulement pour les Congolais, mais aussi un problème mondial. Et je pense que si le pape avait eu l'occasion d'attirer l'attention sur cette difficulté de gérer les richesses qui appartiennent, on pourrait dire, au monde entier, mais qui sont quand même dans un lieu, dans un pays, ce serait formidable de se dire, il faut que ces violences cessent, il faut qu'il y ait une attention à ce qui se vit sur ce terrain-là et qu'il y ait davantage de paix et davantage de justice sociale au niveau du partage des biens de la terre.
Henri Mouya est le secrétaire exécutif de la Conférence épiscopale pour les ressources naturelles au Congo. Il dresse ici un inventaire de ces richesses dans l'est du pays, notamment, et des convoitises que cela suscite, avec des violences inouïes depuis plusieurs décennies.
C'est depuis plus de 20 ans, à peu près maintenant, que la RDC fait face à des conflits récurrents dans l'est du pays. Et ces conflits sont dus en grande partie, tel que l'avait souligné le groupe d'experts des Nations Unies, que c'était des guerres de rapine, des guerres de pillage de ressources naturelles. Et alors cette situation qui donne l'impression que les décideurs du monde ne font pas très attention, semble nous faire revenir à l'idée du rapport du groupe d'experts des Nations Unies de 2002 qui disait qu'il y avait 11 pays africains transitaires des ressources naturelles de la RDC et 17 pays du monde destinataires de ces ressources, parmi lesquels les pays membres permanents du Conseil de sécurité. De sorte que quand on regarde l'attention qu'on a vers certaines régions du monde et l'attention qu'on a vers la partie RDC et la région du Grand Lac, on a l'impression que les motivations sont différentes.
Il y a un déséquilibre, donc.
Oui. Et si le pape arrive, nous pensons encore, parce qu'on a reporté, et ce n'est pas exclu qu'on fixe une autre date. Le pape est une personnalité dont la parole est écoutée par plusieurs personnes. Je prends comme exemple son encyclique Laudato Si sur les questions de changement climatique. Donc l'encyclique a été reçue par non seulement les catholiques, même les autres personnes, les gouvernements et les institutions. Donc si le pape s'exprime, et surtout s'il passe dans la partie est du pays, je pense que ça va faire ressortir, ça va attirer l'attention du monde sur ce qu'on vit là-bas. Parce que dans cette partie, vous avez plus d'une centaine de groupes armés. Et curieusement, les données géologiques montrent que c'est dans la partie est qu'il y a la concentration des minerais. Ce qui signifie que ces conflits qui sont là-bas s'alimentent des minerais. Et ces minerais ne finissent pas ici et ils finissent dans le monde. Donc c'est un peu ça l'espoir qu'on avait dans les relations entre la RDC et le monde sur les questions des minerais et dans la relation entre la RDC et ses voisins sur la même question.
Alors justement, dans l'est du pays, effectivement, dernièrement, il y a à nouveau, il y a toujours eu, mais là, encore plus d'attaques des rebelles du M23, donc ce groupe qui est accusé d'être soutenu par le Rwanda, et plus au nord aussi des attaques des ADF, donc affiliés à l'État islamique. Là encore, c'est toujours pour le contrôle de territoire, le contrôle de ressources naturelles, de minerais extrêmement valorisés, surtout aujourd'hui.
Oui, effectivement. Donc, du nord au sud, dans la partie est, si je pars du nord, vous avez l'or. L'or qui est un minerai qui est dissimulable, garde sa valeur, une valeur refuge. Si vous descendez, vous allez avoir les terres rares dans la partie nord qui vaut l'ouéché. Mais vous avez aussi les hydrocarbures là, dans le bassin, donc dans le Graben. Vous avez dans le parc de Virunga là-bas, déjà le parc lui-même c'est une valeur. Vous vous souviendrez que l'ambassadeur de l'Italie est mort là-bas, assassiné.
Et donc
l'année dernière. Quand vous descendez, vous avez bien sûr le lac Kivu, mais vous avez le gaz, mais vous avez les minerais de coltan, de cassiterite, qui jusque-là sont exploités en grande partie artisanalement, sauf peut-être l'entreprise Alphamine qui exploite au nord Kivu. Si vous descendez au sud Kivu, vous avez encore des minerais d'or, de cassiterite, de coltan et tout ça. Et si vous descendez un peu plus au sud, au Katanga, c'est là que vous avez le cobalt et le lithium. Tout cela, ça concourt à la recherche de solutions contre le changement climatique, notamment pour l'électromobilité. Donc, c'est-à-dire qu'on aura besoin de batteries lithium, cobalt, lithium. Donc ça, on en a. Et d'ailleurs, pour le cobalt, on a plus de 60% de réserves mondiales. Et donc, ça fait que tous ceux qui ont envie d'accéder à ces ressources veulent y accéder à un prix bas, malheureusement, au détriment des vies humaines et à la violation des droits humains, et ainsi de suite. Et c'est malheureux.
Henri Mouya, le logo pour la venue du pape intégrait plusieurs symboles. Le pape à côté de la croix bleue, symbole du Christ rédempteur, l'animal, l'okapi, les richesses naturelles, l'eau, les minerais, les montagnes, les forêts, mais aussi la violence dans l'Est avec un trait rouge qui symbolise une rivière de sang.
Il y a l'okapi, vous avez le fleuve, vous avez un arbre, et ne fût-ce que les trois montrent les potentialités de la RDC et du bassin du Congo. Et vous vous souviendrez que dans l'encyclique Laudato Si, au numéro 38, le pape a fait mention du bassin du Congo comme deuxième poumon de la planète. Alors, tous ces éléments qu'on a mis, qui montrent les ressources naturelles, montrent aussi les défis que le Congo vit ici, en rapport avec la convoitise sur ses ressources, mais aussi le rôle à jouer par la RDC face au monde, parce que dernièrement, à la COP26, le gouvernement congolais avait présenté la RDC comme pays solution. Pays solution face au changement climatique, parce que avec la forêt, on a la possibilité d'apporter, d'atténuer les gaz à effet de serre. Avec les tourbières, c'est la même chose. Mais aussi pour l'électromobilité, nous avons le cobalt et le lithium. Mais alors l'eau, qui est déjà enviée, parce que peut-être que vous pouvez vous rappeler le projet Transaqua pour le transfert de l'eau vers le lac Tchad. Et donc c'est un peu tous ces éléments de ressources naturelles qui caractérisent la RDC, le bassin du Congo, mais aussi qui font problème à cette partie du monde. Et donc, ça fait aussi que si on veut se réconcilier, ce n'est pas seulement sur les questions politiques, c'est aussi sur les questions de gestion ou d'accès à ces ressources naturelles.
Quand on parle de petites actions ou de grandes actions, je vous propose d'écouter le père Ange qui dirige l'œuvre de reclassement et la protection des enfants de la rue, hors pair, à Kinshasa. Il est très déçu, lui aussi, du report de la visite du pape et dont le message auprès des plus pauvres comptait beaucoup.
Les statistiques que nous avons eues il n'y a pas longtemps, il y a 5 ou 6 ans, démontrent qu'il y a plus de 40 000 enfants dans les rues de Kinshasa. Et cela est dû clairement par la pauvreté, la misère que nous avons, que le peuple congolais a, mais aussi à cause d'une certaine désinformation par rapport aux enfants qui sont un peu têtus, un peu qui ne sont pas contrôlés. Alors, directement, on les taxe, les enfants sorciers, mais aussi les enfants qui n'ont pas vraiment des parents biologiques, qui ont des sérieuses difficultés d'adaptation dans des familles d'accueil. C'est comme ça qu'on les accuse, les enfants sorciers. Et ceci pour ne pas être maltraités en famille, ils se versent dans la rue. C'est comme ça.
Quelle a été votre réaction à l'annonce du report du voyage du pape? Le pape qui venait aussi avec ses messages, donc ses messages de miséricorde, enfin de travail justement auprès des plus nécessiteux.
Bon, l'annonce du report de la visite de Saint-Père a connu une réaction personnellement, et aussi je crois de toute la population congolaise, une réaction mitigée. Mélangé entre la déception, le choc et aussi la compassion. Le Saint-Père, nous savons qu'il a une sensibilité spéciale et légendaire envers les personnes vulnérables. Comme ONG qui travaille pour et avec les enfants de la rue de Kinshasa, au Père attendait du Saint-Père un message d'encouragement, un message de soutien sous toutes ses formes, mais surtout du soutien spirituel. C'est quelque chose qui n'est plus une affaire d'une église, mais une affaire d'une société, d'un peuple. Mmh. Et nous, à notre niveau, nous continuons toujours à dire que c'est un travail qui nécessite les concours de tout le monde. Ce sont des bonnes volontés qui doivent nous venir en aide, parce qu'imaginez-vous, avec 150 enfants pour les nourrir, pour les scolariser, les soins médicaux, cela demande beaucoup de dépenses. Et ces dépenses-là ne peuvent provenir que de bonne volonté.
Et quand on parle de petites actions ou de grandes actions, je vous propose d'écouter le père Ange qui dirige l'œuvre de reclassement et la protection des enfants de la rue hors pair à Kinshasa. Lui aussi est très déçu du report de la visite du pape, dont le message auprès des plus pauvres compte beaucoup.
Oui, je pense que un des aspects importants de l'action et souvent de la prise de parole du pape, c'est de n'oublier personne. Et en particulier les personnes qui semblent abandonnées, qui semblent mises à l'écart de la société. Et c'est un peu le cas des enfants de la rue, qu'on peut parfois aussi associer aux enfants soldats, qui parfois, quand ils abandonnent les armes ou avant de prendre les armes parce qu'on leur a fait croire que ce serait leur salut, eh bien, se retrouvent dans une situation difficile. Et donc, Celui qui s'occupe de ses enfants, qui essaie de leur donner un peu d'espoir, de leur donner un sens de la vie et beaucoup de possibilités de s'insérer dans la société, c'est vraiment un espoir d'entendre le pape dire, voilà, personne ne sera laissé de côté, l'Église catholique va s'occuper de tout le monde, ou en tout cas va faire une proposition de l'Évangile de Jésus et du salut proposé par Jésus. Et cela suscite beaucoup d'espoir. Pas seulement pour les enfants de la rue, mais aussi pour tous ceux qui essaient de consacrer du temps à les aider pour qu'ils ne se sentent pas oubliés et qu'ils se laissent entraîner peut-être par ceux qui utilisent les enfants soldats, ou ceux qui abandonnent totalement les enfants. Et souvent, les enfants sont victimes des adultes. Et du coup, le pape, la parole du pape suscite beaucoup d'espoir et peut provoquer vraiment, j'ai envie de dire, un engagement qui n'est pas simplement réservé aux personnes qui essaient d'encadrer et d'aider ces enfants de la rue, mais peut susciter même des initiatives au niveau des communautés chrétiennes.
Alors on surnomme aussi le pape François le pape de la miséricorde. Et on parle aussi d'une diplomatie de la miséricorde. C'est ce que nous dit Jean-Baptiste Noé, qui est le rédacteur en chef de la revue Conflit et qu'on a pu joindre au téléphone. Jean-Baptiste Noé, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la revue Conflit. Vous avez publié un livre sur le pape François en 2019 intitulé « François, le diplomate, la diplomatie de la miséricorde ». Alors, en quoi cela consiste pour le pape François ?
C'est le fil conducteur de toute son action apostolique diplomatique depuis 2013. C'est-à-dire qu'il voit la diplomatie du Vatican comme un moyen d'apporter la paix dans des pays où celle-ci est absente. Et notamment, un élément très important pour le pape François, c'est de se rendre dans les pays qui, d'après lui, en ont le plus besoin, c'est-à-dire sont dans une situation de trouble, une situation militaire extrêmement compliquée, d'où un voyage en Birmanie, d'où le voyage qui était prévu au Congo, d'où le voyage prévu également au Liban. Il voit vraiment son voyage, ses voyages, comme un moyen d'apporter la paix, d'apporter réconfort et de contribuer par sa diplomatie à soulager des populations qui souffrent.
C'est-à-dire il faut être au milieu de ceux qui souffrent, peu importe où ils se trouvent.
Exactement, peu importe où ils se trouvent, peu importe également leur religion. Il a été dans des pays où les catholiques étaient très minoritaires. Alors évidemment, il va rendre visite aux catholiques, mais il va aussi rendre visite aux autres chefs religieux. Et son message est un message pour l'ensemble de la population du pays qu'il visite et pas uniquement pour la population catholique.
Alors, quel était en particulier en RDC le message diplomatique central qu'il voulait transmettre ?
La RDC est un pays qui est très compliqué, qui connaît des troubles militaires, des violences ethniques et religieuses depuis de nombreuses années. C'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, 110 millions d'habitants, donc une masse démographique très importante. Et des troubles extrêmement violents dans la partie est du Congo, l'Ituri, le Nord Kivu. Des troubles violents, depuis un an, il y a un état de siège qui est organisé par Kinshasa dans le pays. Les militaires se sont arrogés des pouvoirs supplémentaires pour tenter de résoudre ces troubles, mais ils n'ont pas encore réussi. L'ONU, qui a estimé à près de 50 000 morts le nombre donc de victimes de cette guerre civile depuis 1999, donc 50 000 morts en 20 ans, c'est quand même un conflit extrêmement important. Et le pape est attaché à mettre en avant ces conflits oubliés. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais il y a des conflits oubliés, la guerre au Yémen, la guerre en Ituri. Il cherche, par ses voyages, à rappeler à la communauté internationale que là aussi il y a des guerres, que là aussi il y a des personnes qui souffrent et qui meurent, et que le rôle de la communauté internationale, c'est aussi de contribuer à rétablir la paix dans ces pays, dans ces régions qui sont oubliées.
Alors, c'est faire rappeler effectivement ces conflits à un moment aussi où ces conflits reprennent de l'intensité avec ces attaques des rebelles du M23, notamment qui se sont beaucoup rapprochés de la ville de Goma où devait se rendre le pape. Et donc, là encore, c'est un message encore plus prégnant vu la situation actuelle.
Tout à fait, il devait normalement célébrer une messe à Goma où il y a eu un massacre il y a quelques jours, une trentaine de morts, un massacre extrêmement important. Et c'était pour lui une manière de montrer qu'il était au chevet de ces populations qui souffrent, mais aussi que ce ne sont pas des zones oubliées et ce ne sont pas des zones en dehors de la loi ou du droit international ou en dehors de la paix. et que justement le fait que le pape y aille, c'est pour montrer que les bandes criminelles ne gagnent pas. Il s'est rendu en Centrafrique, un pays qui a été et qui est toujours éprouvé par les violences, et c'est toujours cette idée de montrer que la guerre, la violence, la haine ne doit pas l'emporter, et qu'on est capable de venir, d'organiser une opération, une activité spirituelle, une activité de paix, où on va rassembler le plus de personnes possible pour opposer la prière et la spiritualité, la religion, à la guerre.
Est-ce que le message du pape aussi n'était pas de relancer son message concernant l'importance pour l'Église de la démocratie et du respect des droits humains, notamment dans un pays comme la RDC, sachant qu'il y a des élections en 2023?
Tout à fait. Alors, le pape n'intervient jamais directement dans la politique d'un pays. Et d'ailleurs, il a réprimandé aussi les évêques congolais qui avaient tendance à mélanger leur rôle spirituel et avec un rôle politique. Et certains se sont immiscés dans les affaires politiques. Il y a eu une réprimande publique du nonce, donc le représentant du pape au Congo, il y a de cela un peu moins d'un an. Donc le pape défend évidemment le processus démocratique, l'inclusion des populations, mais avec une barrière qu'il ne veut pas franchir, parce que ce n'est pas son rôle, qui est d'intervenir directement dans la politique d'un pays. Il se garde bien de prendre position sur les élections qui auront lieu. En revanche, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les élections puissent avoir lieu et qu'il faut que l'ensemble de la population congolaise puisse être écoutée au cours de ces élections.
Alors, si on reprend cette idée du pape faiseur de paix, on a peut-être quelques exemples où le pape a tenté de rapprocher les belligérants. C'est le Sud-Soudan, notamment, pays où il devait se rendre également après la RDC, juste après, donc début juillet, donc voyage reporté. Le pape, on s'en souvient, avait invité les deux belligérants, Salva Kiir et Riek Machar, au Vatican. C'était en 2015. Aujourd'hui, quel était son message réitéré donc au Sud-Soudan?
Oui, ça a été une réunion très forte. Ils avaient invité à faire une retraite au Vatican et donc à profiter de cette retraite ensuite pour bâtir la paix entre eux. Et l'idée qu'a le pape, c'est une sorte de service après-vente, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à un coup. Ce n'est pas uniquement faire venir les dirigeants au Vatican, signer un traité de paix et puis s'arrêter là. C'est l'idée d'un suivi. La diplomatie du Vatican est consciente que la paix ne se bâtit pas en quelques années et qu'il faut du temps pour réconcilier des parties qui sont parfois en guerre depuis longtemps. Et donc, il y avait cette idée de venir pour actualiser le processus de paix, d'autant plus que ce processus de paix est non seulement au point mort, mais en plus est en régression puisque les violences ont repris. Donc, le pape voulait montrer à travers sa visite qu'il n'avait pas oublié le Soudan du Sud, et qui n'avait pas fait un coup médiatique ou un coup de communication il y a quelques années en faisant venir les deux dirigeants, mais qu'il avait toujours ce dossier à cœur, avec toujours cette volonté de faire advenir la paix dans une région qui ne la connaît pas.
Donc il y a une véritable diplomatie du Saint-Siège. En quoi, d'une certaine manière, le pape François a révolutionné ou peut-être fait avancer cette diplomatie vaticane?
Il n'a pas révolutionné, il a repris les atouts, les leviers qu'a la diplomatie du Vatican, alors avec sa patte à lui, sa personnalité, sa manière de sentir et de faire les choses.
En tant que pape argentin et donc un pape du Sud.
Voilà, exactement. C'est ça, en tant que pape du Sud, et puis avec certains sujets qui lui parle plus que ses prédécesseurs, avec aussi en tenant compte de l'actualité. Jean-Paul II, c'était le communisme, mais ça, ce n'est plus l'actualité. En revanche, ce que l'on voit, c'est que la diplomatie du Vatican, et c'est sa grande force, s'appuie sur l'OTAN. Là où beaucoup d'États ont une diplomatie qui va changer d'un gouvernement à un autre, et qui parfois, une diplomatie qui dure 4 ou 5 ans, le Vatican, d'abord, est à l'échelle d'un pontificat, ce qui est toujours plus long, et même va au-delà des pontificats. Je prends un exemple qui est un des grands succès de François, c'est la réconciliation entre Cuba et les États-Unis. Alors, Barack Obama et Raúl Castro avaient publiquement remercié le pape de son engagement pour cette réconciliation. C'est un dossier qui avait été commencé par Benoît XVI, et c'est lui qui avait initié cette réconciliation. Et ça s'est terminé sous François. Donc, la grande force du Vatican, c'est le temps. Elle s'appuie sur le temps, elle s'appuie sur une connaissance longue des dossiers. Et dans des dossiers comme en Afrique, comme au Moyen-Orient, très compliqués, où il y a des enjeux culturels majeurs, le temps est un grand atout parce que le temps est un moyen d'aboutir à la paix.
Jean-Baptiste Noé, pour conclure, le fait que le pape François donc reporte sine die, c'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas quand ces visites pourront être finalement à l'agenda du Vatican, est-ce que le fait qu'elles soient reportées ne crée pas finalement un vide justement sur cette volonté de diplomatie qui était extrêmement présente et donc qui prenait force avec cette visite physique du pape?
Alors c'est vrai que la présence physique, l'événement physique est important et contribue à donner une impulsion majeure. Ceci dit, le pape est bien conscient que ça ne suffit pas, et qu'il ne suffit pas qu'il vienne pour résoudre les problèmes. Et la diplomatie s'appuie sur toute une partie humaine intense, notamment les nonces, donc qui sont les diplomates du Saint-Siège. Vous avez le secrétaire d'État, vous avez un évêque chargé spécifiquement des questions d'affaires internationales. Donc tout l'appareil diplomatique du Vatican continue le travail. Donc même si le pape ne peut pas se rendre, ça ne met pas un terme, ça n'interrompt pas le travail diplomatique qui, lui, se poursuit.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé.
Merci à vous.
Pierre Diarra, on vous retrouve en studio. Je voulais évoquer avec vous le paysage religieux que le pape François aurait trouvé si sa visite avait été maintenue. La RDC, on le rappelle, est un pays de 110 millions d'habitants environ, 40% de catholiques, 35% de protestants, ou proches des églises du réveil, 10% à peu près de kimanguistes, 9% de musulmans. Le déplacement du pape en RDC, c'est aussi un message pour dire l'Église catholique doit rassembler ses fidèles?
Oui, l'Église catholique est toujours là. Je ne pense pas qu'on puisse parler en termes de concurrence, mais il y a quand même une diversité, y compris au sein des disciples qui se réclament de Jésus-Christ, dont vous avez énuméré une liste, et les enjeux sont importants. Les églises catholiques, l'Église catholique, les églises protestantes, un certain nombre de groupes religieux, de chrétiens, de nouvelles communautés, on pourrait appeler même les églises indépendantes et peut-être des communautés plus ou moins sectaires, se réclament toutes de Jésus-Christ, de la relation donc à Dieu et se présentent comme des chrétiens. Et les enjeux renvoient donc à l'œcuménisme. Comment est-ce que tous ces chrétiens ensemble travaillent? Comment ils vivent ensemble? Est-ce que ce sont des relations fraternelles ou est-ce que ce sont des relations de concurrence ou de conflit? Et comment est-ce qu'on prend au sérieux ce désir du Seigneur Jésus d'amener tous ses disciples à l'unité? Donc, il y a cette question. Ensuite, il y a peut-être la question de la responsabilité des uns et des autres pour travailler ensemble pour un avenir commun dans un même pays, par exemple au Congo. Comment est-ce que les chrétiens ensemble vivent l'écuménisme? Comment est-ce qu'ils travaillent à ce que le peuple de Dieu qui se réclame de Jésus-Christ travaille au sein d'un ensemble plus vaste, puisque au Congo, il n'y a pas que des chrétiens. Et on pourrait dire, pour les catholiques, il n'y a pas que des catholiques. Et comment est-ce que...
Il y a aussi des musulmans, d'ailleurs.
Voilà. Comment est-ce qu'ils s'engagent tous pour qu'il y ait davantage de paix, de joie, de justice dans ce grand pays où Jésus-Christ est quand même largement accueilli par les populations?
On va écouter Mgr Muyengo, l'évêque d'Uvira, dans l'est de la RDC. Alors lui préfère parler d'œcuménisme et de dialogue interreligieux plutôt que de concurrence.
En tant que pape, donc chef de l'Église, je pense qu'il allait appeler les fidèles catholiques à la persévérance dans leur foi, de ne pas se laisser intimider, impressionner par les autres. Mais les connaissant un peu aussi, je sais qu'il allait plus nous appeler à l'écuménisme. Le vrai, alors, pas de l'écuménisme avec les gens qui passent le temps à injurier les autres et à animer la haine. Nous, à Ouvira, nous faisons une bonne expérience de l'écuménisme. Nous prions ensemble. Nous faisons une bonne expérience de dialogue interreligieux. Moi, pendant le mois de janvier, j'ai fait le tour des églises, même des réveils. Tant que nous tous nous parlons au nom de Jésus, il y a lieu de se rencontrer pour se parler. Nous faisons même l'expérience des dialogues interreligieux parce que nous croyons que le peuple de Dieu écoute plus leur pasteur que tous ces politiciens qui nous divisent parfois. Et là, on voit la lueur d'espérance. Mais comme je disais, les enjeux de la terre, les enjeux des ressources naturelles, nous fragilise.
Donc il n'y a pas de concurrence, entre guillemets, entre des églises du réveil, les protestants, les catholiques, les kibanguistes.
Des concurrents, il y en a. Mais comme je disais, nous, l'église catholique, nous sommes une église de liberté. Nous ne laissons pas place au prosélytisme. Et nous disons que le terrain est grand pour prier Dieu, pourvu que ce soit le vrai Dieu. C'est Dieu de la paix, c'est Dieu de la justice. C'est Dieu qui nous appelle à vivre ensemble au-delà de nos différences. Mais combien sont prêts à écouter ces discours-là, à essayer de mettre ça en pratique dans leurs églises respectives? C'est là le problème. Ça devient un fonds de commerce. Et tant que nous resterons dans cette misère économique, sociale, et les églises vont se multiplier avec les marchands de merveilles, à Kinshasa, où j'ai passé beaucoup de temps, on parlait de Dieu de prospérité, qui vous donne la richesse, qui vous donne le succès, et je ne sais pas quoi. Tant qu'on reste dans la misère, bon, nous faisons les lits de toutes ces églises qui n'aident pas la promotion humaine et réelle, mais qui exploitent la naïveté, l'ignorance de la majorité.
Je pense qu'il y a un défi très important qui a d'ailleurs été analysé par Léonard Santedi Kinkuku, qui est l'actuel recteur des universités catholiques du Congo, pour dire que finalement, au lieu d'être tout le temps en train de se dire que les églises du réveil et puis d'autres églises font de la concurrence et attirent nos chrétiens, il faudrait se demander finalement quelles sont les manières qui attirent les chrétiens chez les églises du réveil et d'autres églises, et se dire comment est-ce que nous pouvons relever ces défis au niveau de l'église catholique et peut-être aussi au niveau des églises protestantes. Et un des aspects qui me semble très important, c'est la solitude dans laquelle peuvent se retrouver des chrétiens, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans une communauté, mais dès qu'ils ont un problème concret de santé, de chômage,
plutôt donc,
ou de bien vivre, eh bien, il n'y a plus personne vraiment qui les aide. Et alors que les églises de réveil, au moins d'après ce que disent ceux qui y vont, s'il y a un problème de chômage, tout le monde s'y met et essaie de voir comment on peut les aider à résoudre ce problème concret. S'il y a un problème de santé, s'il y a un problème d'argent, s'il y a un problème quelconque, la communauté s'assoit, trouve des responsables pour discuter et aider vraiment l'individu.
Ils se sentent faire partie d'un groupe.
Voilà, ils sentent qu'ils font partie d'une communauté, qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de cette fraternité et de cet amour que les chrétiens sont invités à vivre, eh bien, ils essaient de trouver des solutions concrètes. Alors que certains chrétiens qui sont dans les églises classiques protestantes ou catholiques ont l'impression que l'individu est un peu laissé à lui-même. Et du coup, Léonard Santedi dit, il y a peut-être un défi là à relever au niveau de nos communautés chrétiennes, au niveau de nos communautés catholiques, pour voir comment est-ce que réellement nous venons au secours des individus qui ont des difficultés au niveau du chômage, au niveau de la justice et dans d'autres questions concrètes. Comment est-ce que l'Église et comment est-ce que l'Évangile est vraiment accueilli? Et comment est-ce qu'on pourrait presque dire comment est-ce que cet accueil de l'Évangile porte des fruits et comment est-ce qu'il y a une certaine efficacité dans la résolution des problèmes quand un individu se trouve vraiment dans la difficulté.
Pourtant, l'Église catholique est extrêmement présente, notamment à RDC, au niveau, par exemple, de l'éducation, de la santé.
Bien sûr. Mais malgré cela, malgré toutes ces institutions de l'Église catholique, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé et autres lieux où l'Église s'investit pour la promotion humaine, il n'en demeure pas moins que certains individus se trouvent un peu marginalisés ou solitaires et n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Donc, peut-être que ces défis qui sont peut-être mieux relevé dans les églises du réveil ou dans d'autres églises, peut-être que nous, catholiques, nous pourrions essayer de voir comment est-ce que nous pouvons relever ces défis et non pas simplement nous contenter de nous plaindre que nos chrétiens vont dans ces églises et quittent l'église catholique.
Pour l'évêque d'Uvira, Mgr Muyango, la venue du pape en RDC devait porter un message de réconciliation à plusieurs niveaux et surtout dans les régions en proie aux violences.
D'abord, se réconcilier avec soi-même. Réconciliation dans nos familles, réconciliation avec les autres, mais réconciliation aussi dans les pays. Si les gens ne se convertissent pas à la solidarité avec l'autre, si chacun court derrière ses propres intérêts, on ne s'en sortira pas. réconciliation avec nos dirigeants. Si les gens regardent vraiment l'intérêt de leur peuple, moi je crois que c'est facile de s'en sortir.
Pierre Diarra, en conclusion, la question du dialogue interreligieux, on l'a entendu, hein, elle est citée à plusieurs reprises, notamment par Mgr Muyengo, l'évêque d'Uvira dans l'Est de la RDC. Et c'est sur ces questions que vous travaillez, Pierre Diarra. Sur l'Afrique en particulier, ça prend une dimension très importante.
Oui, au niveau du dicastère pour le dialogue interreligieux, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur une question qui est un peu transversale, la question de la convivialité, qui est un lieu où je pense que nous pouvons, au niveau de l'Église catholique et même avec nos partenaires engagés dans le dialogue en même temps que nous pouvons faire des pas supplémentaires. Il peut y avoir aussi des textes communs, comme le pape a eu l'occasion de le faire, le texte d'Abu Dhabi, où le pape propose avec donc l'imam un climat de paix et de fraternité et qui permet justement d'aller ensemble dans la quête de Dieu, dans la quête du salut, en essayant de se soutenir fraternellement. Il y a cet aspect. Et puis, si je me situe dans le contexte africain avec les religions des ancêtres ou religions traditionnelles africaines, il peut y avoir des valeurs qui sont partagées, qui sont mises en relief et qui permettent de construire davantage un monde de fraternité, un monde de justice où, finalement, le vivre ensemble, si on peut exprimer cette opinion, nous permet de tendre vers une convivialité qui n'est pas simplement de façade, mais qui est vraiment une recherche commune. Parce qu'ensemble, on peut être fort pour créer des occasions, pour transformer le monde, pour qu'il y ait plus de justice, de paix et plus d'amour.
Merci beaucoup Pierre Diarra. Merci d'avoir participé à cette émission de Religion du Monde. Nous faisions un point après cette annonce du pape qui ne peut pas donc se rendre en République démocratique du Congo, ni au Sud-Soudan pour des problèmes de santé. Son
merci
genou
à vous aussi.
Qui le fait beaucoup souffrir.
Oui, merci beaucoup à vous. Et puis, espérons que le pape retrouve assez vite sa santé et puisse effectivement aller au Congo et au Sud-Soudan.
C'est la fin de cette émission Religion du Monde, préparée par Véronique Guémard, réalisation Guillaume Buffet. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site RFI.fr, Twitter et Facebook. À la semaine prochaine.